Europe 1.
Heures, sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. L'histoire, la grande, la petite, l'histoire sous toutes ses facettes, en compagnie d'un garçon qui lui aussi a de nombreuses facettes. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, et en ce jour si particulier, je dirais plus globalement, bonjour la France. Comme Stéphane, qui est un passionné de la première heure, vous êtes à la fois anxieux et impatient que ça commence. Ça fait des jours qu'on en parle, des jours qu'on se projette. Qu'est-ce qui nous attend ce soir, Stéphane ?
Une moussaka géante.
Non, je vous l'expliquais 15 fois, l'entrée en lice de la France dans l'Euro de foot face à l'Allemagne. À cette occasion, historiquement, votre chausse les crampons et vous propose une spéciale autour de trois figures de légende du ballon rond.
Oui, vous avez raison Mathieu, cet après-midi on réunit des as de la passe. À commencer par l'un des tout premiers, et ce n'est pas n'importe qui, un lord. Eh oui, Lord of Kinead. Un footballeur qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, a donné ses lettres de noblesse au football et en a défini les codes et rendu le sport populaire en Angleterre. Puis toujours en Angleterre, lui était considéré comme le cinquième Beatles et la première star du genre. Je vous raconte le destin fou d'un punk du foot, George Best. Quant à vous Mathieu, vous nous dresserez le portrait d'un as de la passe plus contemporain. C'est qui c'est Franck Ribéry? Parce que niveau passe, il en connaît rien.
Non, Stéphane, non, alors pas de ça ici, on parle foot et uniquement foot aujourd'hui. Bon, et un peu sextape et tracas judiciaire aussi, puisque je vais vous parler du joueur français sur qui tous les regards seront braqués ce soir.
Karim Benzema.
Et oui Stéphane, on ne peut rien vous cacher, je sais que vous faites partie de ceux qui depuis des années militaient pour son retour en envoyant des textos rageurs à Didier Deschamps pour qu'il revienne sur sa décision de ne pas le sélectionner, ou en dénigrant d'autres joueurs comme Olivier Giroud écrivant à Didier « il est nul ».
Sa mère aurait même couché avec Adolf Hitler.
Vos manigances ont marché, vos vœux ont été exaucés. Stéphane Benzema est de retour chez les Bleus, l'occasion de revenir sur son histoire.
Bon, eux, on les sélectionne à chaque fois.
Oui.
Faut dire, ils nous déçoivent rarement.
Jamais.
Ce sont nos chroniqueurs. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Et moi, hélas, je suis un peu comme Ribéry, cantonné dans mon boudoir. Et donc, je ne saurais parler football. Donc, je vais vous parler de Betty Sorp ou Betty Pack, alias Cynthia. Une vraie reine de la passe, car si elle séduisait des hommes, ça n'était pas pour de l'argent, mais par amour de son pays. Plus fort que le bureau des légendes, l'histoire vraie de la messaline des ambassades.
Elle sait nous appâter. Alors, avec nous également, David Cassello-Lopez, qui, vous le savez, tous les jours remonte aux origines d'une invention.
Là, j'ai l'impression qu'il cherche un job pour l'année prochaine, mais vous savez que vous êtes reconduit, hein, mon cher David.
Ah oui. Comme c'est gentil. Vous connaissez cette application qui s'appelle LinkedIn, ce réseau social.
Il y a plein de gens qui utilisent ça.
Exactement. C'est le réseau social numéro 1 pour l'emploi.
Pour l'emploi.
Pour la carrière.
Et là, Olivier Pouls va nous faire vraiment plaisir. Parce qu'on va parler d'un fromage et de sa tarte.
Vous serez peut-être content aujourd'hui que je ne l'ai pas apporté.
Oui,
parce que habituellement,
pourquoi t'apportes pas le produit ? Mais c'est tellement
c'est une sacrée surprise pour ceux qui nous suivent dans le studio après, si on avait une tarte au maroilles.
J'aurais voulu vous la laisser pendant toute l'émission.
J'ai découvert un autre fromage, pareil. C'est le Rocroi.
Rocroi.
Je suis allé à Rocroi. Eh bien, ils ont aussi un fromage qui se mange en tarte aussi. Et c'est... ça sent fort, mais pas dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire?
Je me réjouis déjà de pouvoir utiliser cette phrase. Ça sent fort, mais pas dans la bouche. Enfin, plus qu'un jeu, plus qu'un quiz.
Mais oui, mais vous êtes extrêmement mal placé.
Ben évidemment, mais je suis là pour ça.
C'est sûr, c'est
plus qu'un jeu, plus qu'un quiz. C'est un véritable support pédagogique pour Didier Deschamps qui nous proposons aux alentours de 5h-10. Comment bien entrer dans une compétition? Eh bien, en faisant exactement l'inverse de Stéphane Bern tous les jours dans Bern to be Alive, notre quiz plus ou moins historique. Mais tout de suite, remontons les amis aux origines du foot. Stéphane Bern nous raconte l'histoire d'un des tout premiers footballeurs, et pas n'importe lequel, Lord Arthur Kinnaird.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1873, 1877, 1878, 1879, 1882. Vous pensez que je sais compter? Arthur Kinnaird a remporté à 5 reprises la Coupe d'Angleterre. Et c'était pas tout. Il a joué au total 9 finales, un exploit encore jamais égalé. Comme le dit son unique biographe Andy Mitchell, il a fait plus pour populariser le foot que n'importe quel homme qui n'ait jamais vécu. Déjà parce qu'à 20 ans, comme à la fin de sa vie, Arthur Kinnaird se distingue par son physique de Golgoth. Cet Anglais qui joue au foot, le plus souvent dans des équipes écossaises, impressionne. Des cuisses épaisses, un torse bombé, une barbe dense couleur feu. Sur le terrain, Arthur ne fait pas dans la dentelle, il découpe. On dit même de lui qu'il est le joueur le plus violent de cette deuxième moitié du 19e siècle. Il distribue les tacles comme les coups d'épaule. Le foot à cette époque est bien moins tactique qu'aujourd'hui. Arthur, comme les autres joueurs sur le terrain, n'a qu'un seul objectif. Se saisir du ballon, se débarrasser des adversaires coûte que coûte et aller marquer. Point. Pas de passe, pas de stratégie d'équipe, c'est sauf qui peut, marque qui veut. Et Arthur Kinnaird s'en tire plutôt bien. Il est l'un des rares joueurs capables d'occuper tous les postes. Attaquant, milieu de terrain, défenseur, ailier et même gardien de but. Toujours avec cette hargne et cette agressivité sur le terrain qui le caractérise. D'ailleurs, sa mère ne réussit pas à le raisonner. La pauvre femme s'imagine qu'après chaque rencontre, son gaillard de fiston reviendra à la maison avec une jambe cassée. Ce à quoi l'un des coéquipiers d'Arthur aurait répondu pour rassurer la pauvre maman. « Ne vous inquiétez pas, madame. S'il revient avec une jambe cassée, ce sera pas la sienne. » Pourtant, Arthur n'a pas le profil de l'Anglais bas de classe qui aurait grandi dans les faubourgs de Londres et survécu en se battant contre des bandes rivales. Bien au contraire, il voit le jour, non pas avec un ballon au pied, mais avec une cuillère en argent dans la bouche. Son père est un riche banquier et sa mère une philanthrope qui subventionne la création d'écoles en Inde. Arthur Kinnaird est scolarisé dans les meilleurs établissements du royaume. Il fréquente notamment les bancs d'Eton College, une prestigieuse école par laquelle passeront plus tard David Cameron, Boris Johnson ou encore les princes Harry et William. Puis le Trinity College. Durant ses études, le garçon aime taper dans le ballon, mais n'excelle pas encore dans la discipline. Arthur ne fait même pas partie de l'équipe officielle. Peu importe. L'adolescent aime jouer avec ses copains et se prendre passion pour ce jeu de plus en plus populaire en Angleterre. Rapidement, il veut marquer de ses crampons, enfin, de ses chaussures, parce qu'il faut le dire, les crampons, vous avez raison Mathieu, n'existent pas encore. Là, Arthur Kinnaird fait la connaissance de Charles William Alcock. On raconte qu'en octobre 1863, Kinnaird et Alcock auraient contribué à la création de l'association de football puis sa diffusion à travers le pays. Le but de cette association, ancêtre de la Fédération anglaise, est de codifier, de réglementer la pratique du foot. Les coups de pied sur les autres joueurs sont désormais interdits, comme de porter le ballon à la main. La durée d'un match est fixée à 90 minutes. Par la suite, le poids et la taille du ballon seront normalisés. En 1869, Arthur a 22 ans et sort diplômé du Trinity College. Il rejoint le conseil de l'association de foot et souhaite démocratiser ce sport. Car avec la révolution industrielle, l'Angleterre devient une grande puissance économique. Cette modernisation s'accompagne de changements dans la société. Le samedi après-midi est désormais une demi-journée de repos. Beaucoup d'ouvriers en profitent pour jouer au football ou regarder des matchs. Ces quelques heures de loisir sonnent comme une soupape de décompression au moment où le travail s'intensifie. Le chemin de fer se diffuse dans tout le pays et les commandes de rails, de locomotives et de wagons se multiplient. Malgré cette facilité à traverser le royaume, l'Angleterre est divisée. D'un côté le nord, de l'autre le sud. À cette époque, les riches industriels du Nord soutiennent la professionnalisation du foot. Les propriétaires des clubs dirigent leur équipe comme ils font tourner leur entreprise à grand renfort d'argent. Ils n'hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie pour amadouer les talentueux joueurs de tout le pays. À l'inverse, les clubs du sud de l'Angleterre, pour qui le foot doit rester un sport d'élite et de lords, refusent de prendre part à cette marchandisation du sport. Pendant plusieurs années, ils n'affrontent pas leurs homologues du Nord. Pendant ce temps, Arthur Kinnaird s'installe dans le Perthshire, un ancien comté d'Écosse. Avec son ami Alcock, ils organisent en 1872 le premier match de foot international à Glasgow, l'Angleterre et l'Écosse font match nul 0-0. Mais les deux anciens camarades d'école ont réussi leur pari. Le foot devient un sport populaire et les années qui suivent, différentes fédérations voient le jour comme la Scottish Football Association. De son côté, Arthur Kinnaird est sélectionné pour sa première et unique rencontre internationale. Sous la bannière de l'Écosse, le 8 mars 1873, il affronte l'Angleterre. 3000 spectateurs ont fait le déplacement à Kennington, au sud de Londres, pour assister à la victoire de l'Angleterre 4-2. L'engouement pour le football semble inarrêtable. Et dans cette course au ballon rond, Arthur Kinnaird va jouer un rôle encore plus important. L'intrépide joueur écossais a, entre autres, participé à l'évolution du jeu dans le foot. Entre les années 1860 et 1880, la manière de jouer est profondément remaniée. Jusqu'alors, les joueurs progressaient sur le terrain en individuel. Ils affrontaient leurs adversaires en un contre un et ne pouvaient pas vraiment s'appuyer sur leurs coéquipiers. Le dribble était donc la seule façon d'éliminer un opposant. Mais avec les règles de football plus codifiées dans la deuxième moitié du 19e siècle, les clubs s'adaptent et inventent une nouvelle manière de jouer. Son nom, le passing game, le jeu de passe. Les équipes écossaises, si chères à Arthur Kinnaird, sont les premières à développer cette stratégie. Pendant une vingtaine d'années, l'Écosse fait cavalier seul. Mais Kinnaird souhaite que le foot touche un maximum de personnes. En Angleterre, comme à l'étranger, il s'engage alors sans retenue dans la promotion de son sport fétiche. En plus de ses 9 finales jouées pour tenter de remporter la Coupe d'Angleterre, Arthur Kinnaird intègre rapidement l'association de football et en devient même le président. Pendant 33 ans et jusqu'à sa mort, il défend bec et ongle sa discipline et la modernise. En parallèle, Lord Kinnaird obtient en 1870 le poste de directeur de la Ransom Bouverie & Co., un établissement financier qui deviendra par la suite la prestigieuse Barclays Bank. Mais l'homme s'est également illustré d'une autre manière. Un événement qu'il aurait bien voulu garder secret.
Quand vous prenez ce regard pervers, je crains le pire, Stéphane. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, vous me connaissez, pour moi l'histoire n'a pas de secret, et même celle du foot. Nous sommes en 1877, lors de la finale de la Coupe d'Angleterre de foot. Arthur Kinnaird est le gardien de but de l'équipe des Wanderers face à celle d'Oxford. Un attaquant adverse frappe un tir lointain. Kinnaird l'intercepte, mais retombe, le ballon à la main, à l'intérieur de ses cages. C'est le premier but contre son camp, jamais enregistré. Mais Lord Kinnaird, trop fier, use de son influence pendant des décennies pour ne pas rendre officielle cette grossière erreur. Ce n'est qu'en 1980, oui, 1980, vous avez bien entendu, après de longues recherches, que ce but est définitivement authentifié. Preuve s'il en fallait une, qu'Arthur Kinnaird, presque 100 ans après sa mort, a bel et bien marqué l'histoire du football.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Arthur Kinnaird, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui a longtemps fait vivre le sport sur France Télévisions, Gérard Rolls. Bonjour Gérard.
Mais bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Gérard Rolls, vous êtes, faut-il le rappeler, un journaliste sportif de légende. Vous venez de publier avec votre fils Julien les 100 histoires de légende du foot aux éditions Grund. Lord Arthur Kinnaird ne figure pas parmi ces 100 histoires de légende. Il y aurait toute sa place, pourtant qu'est-ce qui vous touche dans son parcours?
Alors, il y a plusieurs éléments dans le personnage Kinnaird qui sont vraiment, vraiment intéressants. D'abord, ça a été un grand homme d'affaires et passionné par le football. Il a continué à jouer au football alors qu'il était grand dirigeant d'une banque. Et c'est vrai qu'il a participé à l'établissement des règles en 1863, même si on dit que le vrai fondateur, c'est Ebenezer Cobb Morley. Mais il faisait partie de la bande, du pub, de la banlieue de Londres.
C'est là que tout s'est décidé, en fait, dans un pub. On a décidé les règles du foot.
On a édicté les fameuses 14 lois du football, c'est-à-dire la largeur des buts, 7 yards, l'endroit où on va poser le ballon pour le penalty. Il a vraiment fait partie de ça. Et il y aura donc un numéro 2 dans ce livre, des 100 histoires de légendes du foot, et Kinnaird aura sa place, évidemment.
Dans votre livre, ce qui est vachement intéressant, Gérard, c'est que c'est pas tellement les performances sportives, c'est les anecdotes du sport. Aujourd'hui, on mettra en valeur les performances, les chiffres, et vous revenez sur les histoires.
Ça vient presque d'Europe 1. Philippe Gildas, qui travaillait sur Europe 1, m'avait dit un jour, Gérard, dans ton métier de journaliste, il faudrait que tu commences à chaque fois par « il était une fois ». Voilà, et c'est exactement ce qui nous plaît avec mon fils Julien, mon fils d'amour, quand on écrit ça. C'est-à-dire que je pense, moi, il était une fois le ballon.
Ce qui vous intéresse, et c'est un peu notre cas aussi dans cette émission, Gérard Rolls, c'est les histoires, celles des joueurs connus comme Pelé, Maradona, Zizou, mais aussi celles de joueurs moins connus. On découvre par exemple le Mozart du foot, Matthias Sindelar, et même le Napoléon du foot, Raymond Coppa. Si vous deviez retenir une légende oubliée, ce serait laquelle?
Alors, il y a un cas qui m'a beaucoup intéressé. En plus, j'ai eu la chance de le côtoyer. C'est Juste Fontaine, le Français. Pourquoi? Parce que là, c'est pareil, c'est la grande histoire. C'est le fait d'être capable de saisir sa chance au moment où elle passe. Ça, c'est une de mes marottes, moi, puisque ça s'est passé pour mon métier, ma vie privée. Juste Fontaine, en 1958, donc attaquant de l'équipe de France, sélectionné, est parti en Suède pour la compétition avec une canne à pêche, parce qu'il était remplaçant. Le titulaire, l'avant-centre, René Blyard, se blesse à l'entraînement. Et pour le premier match, Juste Fontaine devient titulaire. Il marque un but, deux buts, trois buts, quatre buts, 13 buts. Il va devenir, c'est historique,
c'est
le meilleur buteur de la Coupe du Monde sur une compétition.
Encore
tout
aujourd'hui.
Ça en étant remplaçant au début, c'est extraordinaire.
Ça, c'est un peu ce qui vous arrive, Mathieu.
Je vois pas le rapport, mais si vous le dites. Alors Gérard, ce qui est intéressant dans 100 histoires de légende du football, c'est que vous ne retenez pas que des histoires de joueurs, vous racontez aussi des histoires de matchs, d'arbitres, de supporters. Vous revenez par exemple sur le film Le Cœur des Hommes, qui illustre la révolution des paris en ligne. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui a complètement changé le paysage footballistique?
En grande partie, oui, parce qu'on a commencé, parce que, alors, la France, le gouvernement français et les députés ont été toujours un peu pleutres sur cette histoire des paris. Ils ont eu peur pendant très très longtemps qu'on fasse des paris sur le sport. Puis en 1995, ils ont enfin accepté qu'on parie sur le sport. Ce qui a tout changé en fait dans le football, c'est la télévision, puisque après on paye les joueurs très cher. Vous savez, vous avez à peu près en tête le salaire de Neymar.
Oui, c'est la moitié de celui de Stéphane.
C'est plusieurs millions. Alors,
on raconte que c'est 3 millions d'euros bruts par mois.
Par mois, Stéphane.
Mais
il faut renégocier.
C'est ce qu'on raconte. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Alors évidemment, il
paye
beaucoup.
Non, attendez, 3 millions par an.
Calmez-vous. Par mois.
Non, calmez-vous, Stéphane. Pas par an. Non, ça c'est sûr que c'est pas par an.
Lionel Messi. Lionel Messi. 6 fois nommé meilleur joueur du monde, touche 210 000 euros par jour, lui.
Oh, ça
210 000 euros par jour.
Et Stéphane, par
ça donne envie de se réveiller.
Non, mais, et d'aller à l'entraînement. Vous voyez, Stéphane,
et donc
vous avez
c'est ça beaucoup qui a, on va dire, dérégulé l'économie du football, avec en plus les Émirats arabes qui sont arrivés, le Qatar, et entre autres.
Alors, vous racontez aussi le foot par ses accessoires, ce qui est aussi les anecdotes qui nous touchent peut-être, les maillots, les crampons.
Même, alors, avec Historiquement Vôtre, on est en plein dedans. Sachez qu'il y a un roi d'Angleterre qui s'est fait équiper de crampons. Il faisait 178 kilos.
Oula.
En 1526, c'est Henri VIII. Dans son vestiaire, on a retrouvé une paire de chaussures à crampons parce qu'apparemment, il commençait à jouer avec une balle et il ne voulait pas glisser.
Incroyable.
Avec ce mastodonte de 178 kilos.
C'est fou.
Et l'histoire des gants pour les gardiens de but, vous parliez.
Ça apparaît quand, les gants, ça
1970.
Ah voilà, c'est ça, c'est fou.
L'utilisation permanente, on va dire, des gants, c'est le gardien anglais qui les a inventés à sa façon. Jusque-là, il mettait du chewing-gum dans ses mains pour arrêter le ballon.
Ah non.
Et un jour, il oublie son paquet de chewing-gum. Il a demandé à son entraîneur de sortir de Wembley, le grand stade à Londres, pour aller chercher un paquet de chewing-gum. Il mettait du chewing-gum et un gros paquet au milieu pour arrêter. Et puis ensuite, il s'est dit, je vais quand même prendre des gants de jardinage au début. Et il a découpé le revêtement d'une raquette de ping-pong qu'il a collé sur les gants, les petits picots, pour mieux arrêter les ballons. C'est comme ça qu'aujourd'hui, maintenant, tous les gardiens jouent avec des gants.
Et heureusement pour eux.
Contrairement au handball, d'ailleurs, où là, il n'y a pas de gants.
Alors que
la balle arrive très très vite.
Oui, c'est vrai, c'est
savez-vous, la vitesse maximum qui a été calculée pour un tir avec un ballon de football?
Alors, en tennis, c'est 200 km/h, un peu plus. Alors, en foot, ça doit être 120
km/h.
266
km/h. C'est un TGV.
Un joueur turc au radar, ça a été pris à 266 km/h.
C'est un turc.
C'est très étonnant.
Fort comme un turc.
On va avoir des problèmes avec l'ambassade.
Il y a également dans ce livre, Gérard, des souvenirs plus personnels. On peut voir, par exemple, votre accréditation terrain pour le dernier match de Pelé. Et nous, on a même le son.
Mr. Ali, you are the greatest in box for boxing. You think Pelé is the greatest for soccer?
I don't think, I know he is the greatest.
Le dernier match de Pelé, un véritable show à l'américaine, bien sûr. Les fleurs, les enfants, les majorettes, 76 000 spectateurs. Son dernier match, son dernier but aussi. Un coup franc de 20 mètres, l'apothéose d'une carrière. Pelé quitte son numéro 10, plus personne au Cosmos ne portera ce maillot. Il va terminer le match avec sa première équipe brésilienne, Santos. La boucle est bouclée, Pelé ne jouera plus, mais le show continue. Oh là là, le cadeau que vous me faites,
l'homme
j'avais jamais réécouté.
Vous avez jamais réécouté
ça.
Ah ben voilà,
oh, ça
c'est fait
touche,
partie
mais...
de... C'est l'histoire et votre histoire
en
même temps.
On y était, hein.
Ah, c'était,
J'ai vécu sans doute l'un des plus beaux et des plus grands week-ends de toute ma vie professionnelle, ce week-end d'octobre 1977. J'accompagnais France Gall et Michel Berger à New York qui recevaient un disque d'or. Alors déjà, le voyage aller, À l'époque, il y avait encore dans les Boeing, il y avait un salon au-dessus. Le hasard fait aussi que je suis avec Marina Vladi qui voyage aussi. Et on a chanté. J'étais tellement euphorique, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai chanté avec Marina, elle chantait en russe. Et je lui chantais des vieilles chansons françaises de Rina Ketty.
Donc vous êtes arrivé bourré, c'est ça que vous voulez nous dire déjà. Vous arrivez à New York, vous êtes déjà.
On arrive
bien
à New York.
Ah, ça, il n'y a pas les distances.
La Warner nous prend en main et nous emmène déjà au championnat du monde de boxe où il y a Mohamed Ali. Il gagne, il y a un cocktail après organisé par la Warner, j'ai mon équipe de reportage qui m'attend juste à l'entrée du hall, et je vais voir Mohamed Ali, moi le tout petit Gavroche, et je lui dis une interview s'il vous plaît, il me dit oui. Et on a traversé la salle de cocktail, il m'a pris par l'épaule, Mohamed Ali,
ça fait
donc
mal.
Deux têtes de plus que moi, jusqu'à ma caméra où il a répondu à quelques questions. Déjà ça c'était le samedi soir, et le dimanche, dernier match de Pelé au Giants Stadium, une mi-temps avec Cosmos de New York, qui était son dernier club. Ouais. Et puis l'autre mi-temps avec Santos, son club brésilien. Et puis surtout, à la fin du match, je suis sur la pelouse avec mon accréditation. Je cours avec lui pour faire le tour du stade quand il salue tout le monde.
Vous avez fait le tour d'honneur avec
J'ai
Pelé.
J'ai fait le tour d'honneur avec Pelé.
Et les gens vous applaudissaient.
Gérard
Il avait retiré son maillot et on a pris un orage phénoménal. C'est-à-dire, je suis rentré à l'hôtel, moi, complètement trempé, mais il y avait un mélange de larmes, de bonheur, j'étais sur un nuage.
Un grand moment. Il y a aussi dans ce livre, vous faites une place aux femmes en rappelant les exploits en soccer, comme on dit aux États-Unis, de Megan Rapinoe. Quand on repense au foot dont parlait Stéphane, le foot d'Arthur Kinnaird, où c'était quand même très très violent à cette époque, on aurait eu du mal à imaginer que le foot puisse devenir féminin.
Oui, bien que le premier match féminin, vous le citiez tout à l'heure pour Kinnaird, c'est-à-dire le match entre l'Écosse et l'Angleterre, il y a eu un match féminin Écosse-Angleterre en 1881. Et ça a été un succès d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait, beaucoup de monde tout autour dans les gradins, mais il y avait déjà des machos à l'époque qui ont envahi le terrain.
Non.
Et les femmes ont été obligées de partir en calèche, de s'enfuir, les joueuses. Il a fallu attendre 1920, des matchs caritatifs pour les blessés de la Grande Guerre. Là aussi, succès. Mais la fédération anglaise a pris ombrage de ce succès féminin. Et ensuite, ça a été interdit jusqu'en 1971. Le machisme, en Angleterre, alors qu'ils avaient accordé le droit de vote en 1918.
Gérard, dans votre livre, vous abordez aussi le joueur nord-irlandais George Best. Ah. Ça tombe bien, c'est le personnage qu'on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce qui en fait une rockstar avant l'heure, pour reprendre vos mots?
Mais il avait tout. C'est un super beau mec. Les cheveux longs, un caractère absolument incroyable. Les citations de George Best, vous allez en parler, je pense, tout à l'heure. Mais il dit un truc, il dit « J'avais loué une maison au bord de la mer. Le problème, c'est qu'il y avait un bar sur le chemin pour aller à la mer. J'ai jamais vu la mer.
» C'est drôle.
Mais c'était une autre époque.
Et puis alors, il dit « J'ai arrêté en 1969. » Sa grande année, c'est 68, où il est désigné meilleur joueur, il gagne le championnat, il gagne la Coupe d'Europe. Et en 69, donc, il dit « J'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie.
» C'est ça aussi.
C'est ça aussi, les 100 histoires de légende du football chez Grund. Et j'annonce, puisque vous êtes aussi un homme de scène, que votre spectacle « Vive le sport et ses petits secrets » sera à l'affiche du Festival Off d'Avignon du 7 au 31 juillet au Théâtre Actuel.
Oui, exact.
Et c'est vrai qu'il faut aller voir Gérard Rolle sur scène aussi.
C'est ma grande passion.
Cet homme sait tout faire.
Et vous savez, Stéphane, grâce à vous, j'ai pu ajouter un tout petit détail à une des séquences de mon spectacle. Donc, c'est Néron. Je doutais de sa façon de s'entraîner pour chanter. Et lorsque j'ai vu votre émission, j'ai vu une séquence où Néron s'entraînait à chanter avec une pierre qu'il mettait sur son ventre pour avoir une respiration ventrale.
Et c'est Stéphane qui vous l'a appris.
C'est Stéphane qui me l'a appris. Merci
Stéphane. Pour une fois que je sers à quelque chose. Merci beaucoup Gérard Rolls.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui sont bizarrement passées sous les radars de l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'incroyable destin d'une reine de la passe, la Messaline des ambassades.
Oui, et Stéphane, je reconnais en vous un véritable ami qui a fait mine de se passionner pour le destin de cette grande horizontale.
Mais non, mais moi j'adore ce qui est à l'horizontale.
Ah. Bon, alors, jetons un voile pudique sur cette réflexion indécente.
Oui.
Moi, je vais vous parler.
Mais les saintes n'y touchent maintenant.
Mais pourquoi maintenant? Mais depuis toujours, hein, depuis toujours. Bon, donc, cette dame, elle s'appelle Madame Pack, de son nom de femme mariée. Hein. Oui, elle a épousé en 1936, à 26 ans, un attaché d'ambassade anglais qui est presque deux fois plus vieux qu'elle. Donc, c'est un mariage assez malheureux. Elle l'a épousé, en fait, parce qu'elle était très, très enceinte. Hein. Donc, à l'époque, on plaisante pas avec ça. Faut trouver un père officiel. Elle se marie. Mauvais mariage. Et au même moment, on est dans les années qui précèdent la guerre, et il y a un homme absolument extraordinaire dont j'imagine que l'existence, la vie a fait l'objet d'un livre qui s'appelle William Stephenson. C'est un Canadien. Il a tout fait. C'est un héros de guerre, un aviateur brillant. Il a inventé un système qui, bon, avec la radio, permet... C'est l'ancêtre du fax, en somme. Il a fait fortune. Enfin, c'est un type absolument prodigieux. Et Churchill lui a demandé de créer un service secret de renseignement aux États-Unis. Et il va rencontrer notre belle américaine, et là il a une intuition de génie, faire de cette jolie femme une arme de guerre. Elle est très distinguée, très cultivée, assez guindée, hein, pas le genre à rigoler avec l'heure du thé, et puis surtout assez désœuvrée en fait, hein. Très bien faite de sa personne, grande, blonde, racontez-nous. Toujours tirée à quatre épingles, et surtout elle a une voix douce, apaisante, qui sans doute invitait à la confession. Sur certaines photos, elle est très très belle, elle a un charme étrange, sur d'autres elle a la bouche un peu tordue, un look un peu androgyne, alors c'est vraiment extraordinaire, je vous montrerai des photos d'elle, je vous invite à la googliser, cette belle Betty Pack, parce que selon les photos, elle est sublime ou un petit peu bizarre. En tout cas, en quelques semaines, Betty va se transformer en redoutable vamp. Hein. Et dès qu'elle rentre dans ses nouvelles fonctions, se déclenche en elle une imprévisible explosion sexuelle. Ah, en réalité, bah oui, non, ça devait pas être top avec son mari. Donc là, elle découvre l'amour. Bon, bah écoutez, c'est en service commandé, mais ça a l'air de lui plaire. Elle est parfaitement lucide, consciente de sa tâche. Elle le confiera des années plus tard. J'avais un cerveau et un corps, je les ai utilisés, c'est aussi simple que cela. Mmh. Alors quand on sait les résultats extraordinaires qu'elle obtient, eh ben, elle devait vraiment avoir du savoir-faire. Alors elle vise en particulier les diplomates étrangers et mariés, parce que bien sûr, un homme marié qui voit une créature sublime comme ça, bah, il finit toujours par craquer. Elle commence sa carrière d'espionne en Espagne et en Pologne, elle va quand même obtenir des renseignements sur Enigma, la machine qui permet de coder les messages du côté allemand, et avec l'attaché d'ambassade polonais avec lequel elle couche, elle raconte qu'elle lui laissait faire l'amour aussi longtemps qu'il lui donnait des renseignements. La première mission que va lui confier Stephenson sur le sol américain, c'est quand même aller dérober le code naval de l'Italie à l'ambassade d'Italie à Washington. Ah oui. Écoutez, il faut quand même un sacré sang-froid pour faire ça. Surtout que c'est à l'hiver 40-41. Elle n'est encore qu'une espionne débutante et son Stephenson lui dit, allez hop, à l'ambassade, tu séduis l'amiral italien Alberto Lais. Elle va le séduire tellement qu'il tombe fou amoureux d'elle, qu'il va accepter de trahir son pays en échange de ses faveurs, et il va finir par communiquer le chiffre italien. Il a reçu un petit peu d'argent aussi. Hein. Mais là, sa seconde mission, c'est à l'ambassade de France à Washington, et elle doit non seulement, bon là, il lui faut des tas de renseignements, donc elle va faire du charme à l'attaché de presse de l'ambassade. Elle y va avec un magnifique tailleur vert assorti à ses yeux verts. Lui, un homme, bien sûr, il fait le pan. Il commence à raconter ses faits de guerre. Il fait étalage de ses conquêtes. Il est marié, hein, ça le dérange pas du tout. Il la dévore des yeux. Le lendemain, elle reçoit un somptueux bouquet de roses assorti d'une invitation à l'ambassade. Déjeuner au Carlton, champagne, confidence salée de la dame, parce qu'elle veut lui faire comprendre que s'il lui tombe tout cuit dans les bras, il va passer un bon moment. Bon, et apparemment, oui, lui le redira aussi, c'est sa voix qui faisait craquer les hommes, cette femme. Une voix très envoûtante, apparemment. En tout cas.
Un peu comme la vôtre.
Oh non, moi, je fais peur aux hommes, moi.
Ah oui, c'est vrai? Vous voulez-vous vous confier?
Oui, ils disent, c'est quoi cette brutasse? Alors, en tout cas, Bruce, il est tombé très amoureux. Elle le recrute comme agent. Elle va à l'ambassade de France et ils expliquent aux gardiens que vraiment, en ville, tous les hôtels sont pleins. Ils ont aucun endroit pour se retrouver. Donc, ils doivent occuper un petit canapé, une banquette dans l'ambassade. Au bout d'un moment, le gardien ferme les yeux. Un soir, il le bourre de somnifère, et puis voilà. Et puis ils volent le code, donc voilà. Et en tout cas,
mais on trouvait le code comme ça.
Ah ben non, ils ont forcé un coffre. Ils sont venus avec un montant l'air qui a forcé le coffre de façon très discrète, et ils ont remis le code le lendemain. Parce que quand vous volez un code, faut pas que ceux à qui vous l'avez volé le sachent. Sinon, le code, on change et il sert plus à rien. Et grâce à ça, en tout cas, grâce à Cynthia, les alliés avaient le code français au moment du débarquement en Afrique du Nord. Donc, elle a raconté Betty Thorpe Park, vous pouvez les lire, ces années de guerre sexuelle. Et elle dit, honteuse, eh bien, pas du tout. Mes supérieurs me disaient que le résultat de mon travail avait sauvé des milliers de vies britanniques et américaines. Ça m'a obligée à me trouver dans des situations que les femmes respectables dédaignent. Mais mon engagement était total. On ne gagne pas la guerre par des méthodes respectables. Et voilà une dame qui a fini par épouser son attaché d'ambassade français, Bruce, ce qui fait que c'était pas simplement une histoire de fesses et d'espionnage et d'argent. Et ils sont venus vivre en France, figurez-vous, au château de Castelnoux, dans les Pyrénées-Orientales. Et Cynthia est morte assez jeune. Elle est morte en 63, à l'âge de 53 ans. Mais enfin, j'allais dire, vive la France.
C'est vrai, quand vous ne savez pas comment finir, vous dites vive la France,
oui,
ça marche.
Oui, mais parce que je me dis que c'est un message subliminal.
Ce soir, on joue. Hein,
alors,
donc,
je vous fais passer, messieurs, les photos quand même. Mes chers auditeurs, regardez la belle Cynthia.
Ah, ben oui,
mais comprend. Regardez toutes les photos. Vous voyez qu'elle est très différente.
Elle est sur le canapé avec l'attaché militaire.
Non, je n'ai pas cette photo-là. Je n'ai pas la photo dénudée, Stéphane.
Vous voyez, vous aussi, vous êtes le roi du teasing, Stéphane.
Oui. Il faut essayer de rester un petit peu calme. Le quiz arrive. Oui. On a besoin que vous soyez concentré, Stéphane.
C'est vrai,
je vous montre les photos quand
merci,
même.
Oui.
Mais attention, pas trop. À tout de suite.
Allez, t'es ravissant.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Alors que les Bleus jouent ce soir leur premier match de l'Euro, il s'agit pour eux de bien entrer dans la compétition. Pour Stéphane, en revanche, vu que la saison touche à sa fin, il s'agit de bien en sortir. Notre compétition à nous s'appelle Burn to be Alive, et après un certain nombre de défaites, on ne peut que souhaiter une chose pour Stéphane, comme lui dit Franck Ribéry.
Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui.
J'espère que la retourne va vite tourner pour vous, Stéphane. Jouons à Burn to be Alive. Parlons vaccin, ça faisait longtemps.
Oui, c'est vrai.
1885, c'est l'année de la rencontre entre un petit berger de 9 ans, Joseph, et de Pasteur, le génie des sciences. Mordu par un chien qui avait la rage, le petit garçon ne développera pas la maladie grâce au vaccin que Pasteur teste pour la première fois sur un humain. Les expériences sur les chiens avaient jusqu'alors réussi. D'ailleurs, auparavant, Louis Pasteur avait fait des démarches administratives pour récupérer des condamnés à mort pour tester son vaccin. Vrai ou faux ?
Non, moi, je veux pas influencer le... Stéphane, mais il avait des chiens, il a testé son vaccin sur des chiens qui étaient rue Vauquelin.
Je crois pas.
Il veut vous avoir avec l'histoire d'Henri II, en
Prince-Paris. C'était plutôt sur les animaux. Vous savez qu'il a travaillé sur le houblon, il a travaillé sur...
Je vous donne un indice, Stéphane, oui. Vous l'avez fait en récit.
Bon, bah alors oui, je l'ai dit alors.
Vous avez... gagné.
Eh oui, Stéphane, oh oui, bravo, il l'a raconté, bien sûr, il le sait, il sait tout. Ouais. Il avait envoyé Pasteur une lettre dans ce sens à Pedro II, l'empereur du Brésil. Il voulait inoculer la rage à ses condamnés, puis les vacciner pour vérifier ses théories.
Mais oui, mais l'empereur... au Brésil, au Brésil,
alors, pas en France. Au Brésil, ce n'est pas des hommes ?
Oui, mais si c'est des hommes,
le Brésilien n'est pas un homme, il n'a pas...
Jamais en France, à la fin du 19e, on aurait envisagé de... Ça, vraiment, c'est tout à fait une considération néocolonialiste ou tout à fait condescendante. C'est-à-dire, au Brésil, on va pouvoir... C'est un pays qui n'est pas au même stade de développement. On va pouvoir tester nos vaccins sur des condamnés à mort. On n'aurait jamais fait ça en France au siècle de Pasteur, voilà, voyons
Pasteur
jamais.
Pasteur voulait donc inoculer la rage à ses condamnés. L'empereur Pedro II a poliment décliné. C'est vrai que mourir de la rage était une femme particulièrement douloureuse. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Jeanne d'Albret, la maman d'Henri IV, avait une passion pour l'histoire de Moïse. Du coup, futur roi a eu un berceau en osier, alors que normalement, les futurs souverains ont un berceau d'apparat. Vrai ou faux ?
Non, le berceau d'Henri IV est en écaille de tortue. Là, qu'est-ce que vous croyez ? Non, mais les gars, vous nous prenez pour qui, là ?
À moins qu'il y ait un piège.
Non, je réponds faux.
Vous dites faux ? Clémentine est-elle tombée dans le piège vicieux que nous lui avons tendu ?
Vous avez gagné !
Mais non, il n'y avait pas de piège. Voilà. Parfois, je sais être magnanime. Henri IV a un berceau fait grâce à une carapace de tortue géante. Rassurez-vous, la carapace était retournée. 1793, pendant la terreur, on a voulu brûler ce berceau. On l'a fait en place publique, mais c'était une copie. L'original est aujourd'hui visible au château de...
Pau.
Bravo à tous les deux. Question numéro 3, Stéphane. Parmi ces deux citations, l'une est de Goethe, l'autre de Kerry James, featuring Niro dans le titre Yarien, issu de l'album Dernier MC, sorti en 2013. Première citation, Stéphane. Il ne faut pas vous tromper. Première citation... Fais le mal, tout le monde s'en rappelle. Fais le bien, tout le monde s'en souvient. Deuxième citation, s'il savait où se trouve ce qu'il cherche, il ne chercherait pas. Quelle phrase est de Goethe? Quelle phrase
a priori,
est de Kerry James?
A priori, je dirais un Kerry James, deux Goethe.
Moi aussi.
Fais le mal, allemand, tout le monde s'en rappelle, fais le bien, tout le monde s'en souvient. Ça, c'est qui?
C'est plutôt du Kerry James.
S'il savait où se trouve ce qu'il cherche, il ne chercherait pas.
Goethe.
C'est votre réponse, Stéphane.
Oui, c'est
on valide.
Vous avez...
Ça va être l'inverse.
Gagné!
Non, ouf. C'est gagné, Stéphane. Ouf. Vous savez reconnaître, effectivement, les grands écrivains. S'il savait où se trouve ce qu'il cherche, il ne chercherait pas. C'est Goethe. Fais le mal, tout le monde s'en rappelle. Fais le bien, tout le monde s'en souvient. C'est Kerry James.
Les rageux, c'est comme les gens où l'argent gros, ça va, ça vient. Fais le mal, on s'en rappelle. Fais le bien, personne s'en souvient. Y'a rien.
Ça, évidemment, c'est votre playlist de 10 heures, Stéphane. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Ah non, mais ça, j'ai ça, j'écoute ça tout le temps.
Évidemment, dans votre petite voiture. Question numéro 4.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen Seitenzeit, das kommt mir nicht
auf den Sinn. Bien sûr. Wir reiten so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Si le, bon, général, là, si le général Leclerc
non, là,
vous entendait.
Plus suivre, là.
Oui, enfin, ça va.
Oh, c'est du Goethe.
Excusez-nous, c'est le 19e.
Oui, mais c'est choquant. C'est choquant. On est en France et ce soir, on joue contre eux.
L'Allemagne.
Et on doit
justement,
gagner.
Justement, nous, on prépare.
Moi, je peux pas, je vous rappelle, je m'appelle Kaltenbach quand même. Hein. S'il veut dire ruisseau froid en allemand, bah oui.
Kaltenbach, ruisseau froid, mais c'est plutôt ruisseau chaud qu'on aurait. Bon, bref, question numéro 4. Clémentine, pour vous. Restons avec Goethe. On est si bien avec Goethe. Au 18e siècle, à la sortie d'un de ses romans à succès, on a noté à l'époque une recrudescence du prénom Johann Wolfgang, le prénom de Goethe, dans les années qui ont suivi. Vrai ou faux?
Oui, moi je pense volontiers. Chaque époque a ses engouements pour des prénoms. Regardez la fin du 19e, la quantité de Joséphine, d'Eugénie, de tous ces prénoms impériaux. Donc je vois pas pourquoi. En Allemagne, en Thuringe, où Goethe était un dieu vivant, son prénom n'aurait pas influencé les mères de famille. Je réponds vrai.
Vous avez perdu.
Non, il n'y a pas eu une recrudescence du prénom Johann Wolfgang, ça ne marchait pas pareil à l'époque. Il y a eu une vague de suicides à la suite de la parution de son premier roman.
Les souffrances du jeune Werther.
Les souffrances du jeune Werther, un ouvrage qui met en scène.
Oui.
Un demi-point pour le titre, là.
Non, aucun demi-point ne sera accordé.
On détourne en allemand.
Alors, allez,
que se passe-t-il dans les souffrances du jeune Werther?
Bah, on souffre.
Non, mais le héros.
C'est le héros se promène et il est là. Et en voyant le spectacle de la nature, c'est
une, vague
le vague à l'arme,
oui,
cette notion.
Mène à quoi?
Au suicide.
Il se suicide. Le nom est resté, car on appelle toujours aujourd'hui l'effet Werther, le fait que dès que les gens
parlent
de suicide.
Ah oui, bien sûr, mais vous nous parlez du prénom,
derrière.
Comment voulez-vous qu'on vous dise? Mais bien sûr, les souffrances du jeune Werther.
Écoutez, je vous propose de découvrir aussi l'ouvrage de Stéphane, Les souffrances d'une vieille vertèbre. C'est un autre ouvrage aussi intéressant.
C'est mon sur
la fin de vie. C'est passionnant, je vous le conseille. Stéphane, remporte le quiz.
Eh ben, vous savez, c'est annonciateur de la victoire de la France.
Bon.
Vous êtes visiblement assez allemand aussi.
Je suis pas si sûr.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures pour étoffer votre culture G sans oublier de tonifier vos zygomatiques en compagnie de celui qui, de ce côté-là, est un modèle de souplesse. Stéphane, je vous sens très excité, c'est bien normal car ce soir...
Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux.
Les voilà les footballeurs. Premier match de l'Euro pour les Bleus. À défaut d'être en tribune, Stéphane a décidé de faire une spéciale foot.
Vous avez raison Mathieu, aujourd'hui on réunit des as de la passe. Après le footballeur quasi préhistorique Arthur Kinnaird, on reste de l'autre côté de la Manche où le foot, je vous le rappelle, a été inventé. Puisque je vous raconte le destin de l'incroyable George Best, l'idole des 60s, la première véritable star du foot. Et enfin Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon à 99% vrai, d'un footballeur moderne sur qui tous les yeux vont être braqués ce soir.
Oui, son retour chez les Bleus est l'événement sportif de ces dernières semaines. Mais qui est vraiment Karim Benzema, sinon l'antithèse balle au pied de Stéphane Bern? Deux Lyonnais très différents, vous verrez. J'ai enquêté au sens castellopien du terme, c'est-à-dire que j'ai cherché sur Internet.
Ah justement, puisque vous parlez de lui, David Castello-Lopez est là avec nous, évidemment. Vous avez cherché sur Internet les origines d'un site Internet.
Je vais rencontrer les gens.
C'est une blague, évidemment, David. Il rencontre les gens, il appelle.
Il remonte aux origines. d'une application, enfin, c'est
d'un réseau social
professionnel qui s'appelle LinkedIn.
Oui, et il y a quand même 750 millions de personnes sur LinkedIn. C'est quand même un gros réseau social.
On peut vraiment trouver un job alors là-dessus.
Ah oui, complètement. Oui. C'est moins que Facebook. Il y a 2 milliards et demi sur Facebook, mais c'est quand même pas mal.
Ouais. Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique et chaque jour l'histoire d'un plat. Vous sentez, un petit peu fort aujourd'hui.
Vous le sentez venir.
Vous le sentez
arriver.
Très loin. Il voyage toujours plus vite que nous.
Ouais. Le maroilles. Ça, c'est le maroilles délicieux fromage. En fait, un peu plus fort au nez qu'en bouche.
Oui, c'est vrai.
Ah non, mais c'est vrai.
Il fait peur.
Il faut passer ce cap.
Mais je vous raconterai son histoire. Du Nord et ça fait plaisir.
Oui. Je vous raconterai son histoire et je vous ai...
Je m'avance trop. Le mot de la fin reviendra à Stéphane chaque jour. L'histoire d'une expression, Stéphane, aujourd'hui.
Oui. Bah, vos vannes, vous voyez, on dit toujours « Ah ben, ça tombe à l'eau ». Bah, on pourrait croire que c'est une expression toute simple.
Mais ça veut dire...
Mais ce que vous allez entendre va peut-être vous surprendre.
Tout de suite... Le saviez-vous? Les Beatles n'étaient pas 4, mais 5. Stéphane Bern nous raconte l'histoire du 5e Beatle, le légendaire attaquant qui a marqué le foot anglais, George Best.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Je veux être le meilleur, que personne ne marque plus que moi, ne boive plus que moi, n'ait plus de femme que moi. Sur tous les terrains, je suis le dernier homme debout. Vous l'aurez compris, cette phrase n'est pas de moi. Mais bien de celui que l'on appelle le 5e Beatles, la première pop star du foot. Le meilleur, George Best, qui porte bien son nom, l'a bien été. Écoutez plutôt, il a joué 474 matchs avec l'équipe anglaise de Manchester United, a marqué 181 buts, a séduit tout autant de femmes, a ingurgité des milliers de litres de vodka orange et a surtout remporté le Ballon d'Or et la Coupe des clubs champions européens en 1968. Le football, le petit George, irlandais de Belfast, tombe dedans dès sa plus tendre enfance. Comme beaucoup de garçons de son âge, il passe son temps libre à taper dans un ballon. Mais George ne veut pas simplement être bon, il veut déjà être le meilleur. Alors dès qu'il le peut, il s'entraîne seul avec une balle de tennis, il jongle, dribble encore et encore. C'est que le début, d'accord, mais doué, George Best devient rapidement un virtuose. Il est repéré à 15 ans lors d'un match amical par un certain Bob Bishop. L'homme est recruteur pour le club de Manchester United. La légende veut que Bob envoie à l'entraîneur Matt Busby un télégramme devenu célèbre. « Je crois que je vous ai trouvé un génie ». George Best quitte donc le cocon familial direction Manchester. Le club impose des règles strictes. Tant que les joueurs ne sont pas mariés, ils ne peuvent habiter seuls. George s'installe donc chez Madame Fellaway, sa logeuse, durant toute sa carrière, qu'il aime autant qu'il la déteste. Il faut dire qu'elle est tout aussi aimante que stricte. Le couvre-feu est fixé à 22 heures. Mais George n'est pas du genre à se laisser commander. Il prend l'habitude de laisser sa fenêtre ouverte pour partir parfois des nuits entières faire la bringue. L'apprenti footballeur n'en oublie pas pour autant la raison de ce déménagement dans la ville portuaire, devenir une star du ballon rond. Alors, il se plie aux exigences de son entraîneur. Matt Busby demande à ses jeunes joueurs de nettoyer des vestiaires, entretenir les chaussures des joueurs titulaires, les réparer. George Best sait que ses sacrifices sont obligatoires. Il attend patiemment son heure et il s'entraîne sans relâche. Premier arrivé, dernier parti. Il peaufine sa technique, veut être capable de dribbler, tirer aussi bien du pied droit que du gauche. Et il y parvient. Peu de spécialistes sauront d'ailleurs dire quel est le pied fort de George Best. Lors des entraînements et des rencontres amicales, Matt Busby considère que malgré son jeune âge et son petit 1m71, George est le meilleur tacleur du club. Le poulain va très vite avoir l'occasion de le prouver. En septembre 1964, George Best a 18 ans. Son look détonne, hein. Les cheveux mi-longs, le maillot rouge à col blanc, floqué du numéro 7, sorti du short. Dans le livre qu'il lui a consacré, le journaliste Vincent Duluc explique que ses adversaires traitent George de Sissi, de gonzesse. Mais le jeune prodige s'en moque sur le terrain, il inflige à ses opposants du jour une sérieuse correction. Plus rapide, plus véloce, plus talentueux, le public n'en croit pas ses yeux. Comment un si jeune joueur au gabarit si chétif peut-il survoler le match? Un journaliste du Daily Mirror décrit ainsi le coup de sifflet final. À la fin, ils se sont levés, l'ont applaudi, ils lui ont donné leur cœur. L'amour entre les Anglais et George Best ne fait que débuter. En tout, Georgie Boy, comme on le surnomme, reste 11 saisons à Manchester United. Il participe activement au titre de champion d'Angleterre en 65 et 67. Mais c'est en 1968 qu'il accède au statut de héros national. Manchester United gagne la Coupe d'Europe au stade de Wembley face au Benfica de Lisbonne. Après un long dégagement et une petite série de dribbles, Best fige le gardien portugais et marque le but de la victoire. Écoutez.
And George Best going through here. Yes, it must be for George Best. Georgie Best who done it. Well, that was the footballer of the year, Georgie Best, stamping his mark on this European Champions Final.
C'est la première fois qu'un club anglais remporte ce tournoi. Best est alors au sommet. Il a 22 ans, vient d'être sacré ballon d'or et gagne à présent entre 1000 et 2000 livres par semaine. À cette époque, le salaire anglais moyen est aux alentours de 23 livres. Rien ne semble arrêter l'attaquant de Manchester. Trophée, argent, femme, l'ancien Irlandais timide prend confiance en lui. Il enchaîne les conquêtes anglaises, danoises, allemandes, américaines, des actrices, des chanteuses, des misses de beauté, des starlettes. Il aurait même tenté sa chance avec Brigitte Bardot, sans succès cette fois. Les lettres arrivent par milliers chaque semaine. Il dispose de 3 secrétaires à temps plein. Beau gosse, habillé de cuir, sourire charmeur et fossette de tombeur, il fait la une des pages sport, mais aussi des tabloïdes. Il est le premier joueur de foot à monnayer son image. Il devient l'égérie de chewing-gum, d'après-rasage, de vêtements, de fruits, de céréales, de jeux, de saucisses, de sucettes. Certaines mauvaises langues disent qu'il bouffe à tous les râteliers. Mais Georges aurait tort de se priver. On estime à 100 000 livres par an la somme perçue pour ses partenariats médiatiques et publicitaires. Et sa popularité ne diminue pas, bien au contraire. C'est une véritable bestmania. Les gens font la queue devant la maison de sa logeuse. Les fans, les filles monopolisent la ligne téléphonique. Certains parviennent même à s'introduire à l'intérieur. Voitures de luxe, vacances de rêve à Marbella, avions privés, hôtel 5 étoiles. George Best ne regarde pas à la dépense. Il brûle son argent aussi vite que sa santé. Des rumeurs circulent. L'anagramme de George Best est « Go get beers », traduisé par « Va chercher les bières », car de sa mère, George a hérité de ses qualités physiques. Elle était joueuse de hockey sur gazon professionnel, mais aussi de son alcoolisme. En 1974, à 28 ans, après plusieurs saisons en demi-teinte et une attitude devenue ingérable, George Best quitte Manchester United, relégué en deuxième division. Pendant plusieurs années, il cède aux sirènes de l'argent facile et accepte de jouer pour des clubs de niveau inférieur aux États-Unis, en Australie ou en Irlande. Mais plus il avance en âge, plus ses déboires se multiplient. Condamné à de nombreuses reprises, entre autres pour conduite en état d'ivresse, sa santé se détériore. En 2005, Best meurt à 59 ans d'une infection pulmonaire. Sur son cercueil est alors inscrite cette phrase devenue célèbre « Maradona good, Pelé better, George Best
». Oh, c'est génial.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de George Best, nous sommes avec la rockstar du journal L'Équipe, Vincent Duluc. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour Vincent Duluc, vous êtes journaliste à L'Équipe et écrivain et vous avez signé George Best, le cinquième Beatles, réédité aux éditions Arto Poche, qui nous a permis d'ailleurs d'enrichir ce récit. D'où lui vient ce génial surnom de cinquième Beatles?
Il lui vient surtout de la coïncidence des années 60, c'est-à-dire que d'abord il avait le même style vestimentaire, celui des Beatles tranchait avec l'Angleterre d'alors, celui de George Best tranchait aussi avec les footballeurs d'alors, et il est devenu comme les Beatles le personnage anglais des années 60 le plus photographié avec la famille royale. Donc en fait, voilà, cette analogie est devenue assez naturelle.
Vous écrivez, ils allaient être des héros issus de la même classe ouvrière, ils allaient changer la vie qui s'écoulait en Grande-Bretagne, et il n'y avait que 60 kilomètres entre Manchester et Liverpool, quelques pages entre les rubriques des journaux qu'ils s'apprêtaient à coloniser à eux cinq, des chemins parallèles dans la difficile gestion du génie de la vie avec leurs partenaires. Leurs carrières sont finalement en tout point semblables dans leur intensité, comme aussi dans leur durée, courte finalement.
Oui, presque plus courte, en tout cas, ils se sont séparés presque plus vite que George Best ne s'est séparé de son génie et du football traditionnel. Mais effectivement, il y a eu la même soudaineté, ça a été la même onde de choc. Ils sont arrivés en même temps que la mini-jupe et la télévision finalement. Et tout ça mis bout à bout, effectivement, ça crée une mythologie absolument assez surprenante autour de George Best, qui a fait l'objet d'une quarantaine de biographies, dont la moitié s'appelle George et moi, et ce qui allait de ses ex-femmes à son ancien coiffeur.
Le côté rockstar, George Best le cultivait avec son allure, on l'a dit, vous écrivez Vincent à propos de sa coiffure. Jusqu'à lui, les footballeurs britanniques passaient chez le barbier une fois par semaine, demandaient la coupe réglementaire dégagée derrière les oreilles, et beaucoup de brillantines pour domestiquer ce qui restait. Après lui, c'était plus sauvage, moins strict, il a débridé les choses capillairement.
Après lui, moi j'ai grandi avec, on va dire, avec la mythologie du football anglais. Et après lui, tous les joueurs anglais avaient les cheveux longs, avaient des pattes qui descendaient jusqu'au milieu des joues. Et avaient des airs soit de rockstar, soit de rebelle. Et ça a duré une dizaine d'années. Mais c'est vraiment lui qui a déclenché ça. À ses débuts, il avait la coupe un peu, on va dire, un peu avec la frange qui ressemblait vraiment à celle des Beatles du début, juste après Hambourg, au début des années 60. Puis après, il a commencé à avoir le cheveu un peu plus long. Et tous les autres joueurs l'ont imité. Ils ont imité aussi cette tenue excentrique. Avant lui, tout le monde était habillé de gris. Et lui arrivait à l'entraînement avec une chemise jaune, un pantalon de velours pourpre, voilà. Et dans des voitures de sport qu'il payait très cher et qu'il devait faire peindre à peu près tous les 15 jours parce que les filles griffonnaient dessus qu'elles l'aimaient et qu'elles voulaient se marier avec lui.
Dans votre livre, Vincent Duluc, vous lui prêtez cet aphorisme. « J'ai dépensé tout mon argent dans les voitures, l'alcool et les femmes. Tout le reste, je l'ai gaspillé. » Vrai ou faux? Et ça, au fond, ça décrit assez bien le personnage.
Oui, disons qu'il a tellement eu de nègre dans la presse populaire où il avait des chroniques qu'il écrivait pas lui-même, qu'il y a un doute, on sait pas effectivement s'il a vraiment prononcé cette phrase. En tout cas, même si elle est pas venue de lui, il l'a prononcée souvent parce que c'était un peu sa signature, et c'est une phrase qui revient, mais c'est vrai qu'une partie de sa mythologie repose aussi sur ces petites phrases. Et il y a aussi une autre phrase célèbre qui était, si j'avais dû choisir, je sais pas ce que j'aurais préféré entre coucher avec trois Miss Monde ou marquer un but 50 mètres contre Liverpool. Par bonheur, j'ai fait les deux.
Quand il était au sommet de sa gloire, on a dit qu'il recevait jusqu'à 10 000 lettres par semaine. Est-ce qu'il répondait à ses fans ou uniquement aux femmes?
Non, je pense qu'il pouvait pas répondre. C'était complètement impossible, mais sa vie est devenue impossible. Vous avez parlé au début du récit de Mrs. Philoway, sa logeuse à Manchester. Au bout d'un moment, il a quand même réussi à gagner son indépendance. Il a convaincu Manchester que même célibataire, il avait le droit de se faire construire une maison à 25 ou 26 ans. Et il a construit une maison fantastique dans les environs de Manchester, mais elle était devenue soudain un lieu de rendez-vous. Il y avait des centaines de fans qui s'y rendaient. Et tous les samedis, tous les dimanches, les Anglais devaient pique-niquer tout autour de la maison. Il fallait qu'il sorte dans des coffres de voiture. Il était épié sans arrêt. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il a fait quitter aussi le football de haut niveau. C'est de vouloir échapper à cette pression et qu'il a fait plonger un peu dans l'alcool, probablement.
Vous décrivez la tension presque sexuelle qu'il provoquait sur le terrain. Ça aussi, ça le rapproche des Beatles, cette façon d'hystériser les fans. Est-ce qu'à votre avis, et depuis lui, le public du foot s'est féminisé aussi?
Je pense que le public s'est féminisé, mais qu'on a plus jamais retrouver une hystérie d'ordre sexuel, effectivement, comme vous décrivez. Quand on voit les Beatles arriver au Hollywood Bowl, on entend effectivement les fans complètement hurler, et quand on voyait George Best arriver dans un stade, il se passait exactement la même chose. Il y avait comme ça une électricité qui produisait sans doute pour avoir été autant en avance pour l'époque, ou pour l'avoir autant changé, l'avoir autant bousculé. Je pense que tous ceux qui ont suivi sont arrivés dans les pas des autres, et que personne n'a inventé un nouveau style comme les Beatles et comme George Best en avait inventé un.
Cette Bestmania, Stéphane en a parlé, elle prenait des proportions absolument invraisemblables à l'époque. Est-ce qu'elle est encore palpable aujourd'hui outre-Manche, comme le sont Pelé et Maradona dans leurs pays respectifs, et au-delà d'ailleurs?
Oui, c'est une mythologie intacte, alors que c'est une mythologie qui avait été un peu... un petit peu atteinte à la fin de sa vie, parce que effectivement il avait recommencé à boire après avoir subi une greffe du foie, et ça paraissait une trahison aux yeux des Britanniques. Mais le mythe est intact parce qu'il y a beaucoup de tendresse pour cet homme, y compris pour sa chute. Et là où finalement le mythe des quatre Beatles et du cinquième se rejoignent, c'est que le nom de l'aéroport de Liverpool, c'est John Lennon, et que le nom de l'aéroport de Belfast, c'est George Best.
Voilà. Merci Vincent Duluc. Je rappelle pour les fans des quatre garçons dans le vent et les fans de foot, évidemment, votre livre George Best, le cinquième Beatles, réédité en poche aux éditions Artaud. J'annonce aussi que vous venez de publier Carole et Clark chez Stock et Les mots du football aux éditions Point. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les as de la passe. Après Georges Best, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un as du ballon rond qui fait son retour en équipe de France à l'occasion de l'Euro, Karim Benzema.
J'étais si content, Stéphane, que vous ayez choisi Karim Benzema pour notre troisième personnage du jour. Une joie simple, une joie d'enfant, pure, innocente, jusqu'à ce qu'évidemment je comprenne ce qui s'était joué dans votre esprit. Vissla, que je me souvienne de l'affaire Zaya et que je réalise le double sens grivois que vous aviez voulu donner à notre thème, les rois de la passe. Car c'est ainsi, on ne vous changera pas, hein. Vous salissez tout, Napoléon, Romy Schneider, Catherine Lara.
Je suis la croqueuse de diamants.
Vous salissez tout. Bien sûr, Karim Benzema est agaçant. Karim Benzema, c'est cet élève, vous savez, à l'allure nonchalante qui sifflote au fond de la classe, dont vous parieriez qu'il va pas avoir son brevet et qui rend pourtant sa copie une heure avant devant vous, sort de la classe en lançant « Salut les cons » et décroche un 17. Avant de se manger ensuite, évidemment, un conseil de discipline derrière parce qu'il aura insulté le prof dans la cour. Karim Benzema, on peut critiquer son comportement hors des terrains, sa manière d'être, ses fréquentations, mais il y a une chose qu'on ne peut pas contester, c'est son génie intuitif du football. Benzema est un diamant et c'est ce que certains lui reprochent, il le sait un peu trop. Pas du genre à se contenter de parler balle au pied sur le terrain, Benzema adore aussi parler fiel en bouche sur les réseaux sociaux. Ainsi, en mars dernier, faute de match, on était dans le confinement, il s'adonne à des lives Instagram avec son grand pote Booba, live durant lesquels un soir, il dit tout le bien qu'il pense d'un autre grand attaquant français, Olivier Giroud. « Ça va aller très vite, lâche le poète, on ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil, moi je sais que je suis la F1. » Certains disent que ce n'est pas digne d'un grand joueur, moi je dis c'est normal de se charrier comme ça en équipe, prenez-nous. Pas un jour sans que Stéphane ne se foute de ma gueule. Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je réponds? Non. J'encaisse, stoïquement.
Vous saviez que j'avais un point commun avec le masque de fer?
Ah non, c'est quoi?
Comme moi, il avait un boulet.
Gaston Sema. Ça peut être cool l'ambiance dans les vestiaires des Bleus en ce moment où je vous parle, où le retour de Karim Benzema, vous vous en doutez, ne doit pas faire que des heureux. En même temps, Deschamps n'avait pas le choix. Benzema bat tous les records au Real Madrid, son club depuis 12 ans, depuis qu'il a quitté sa ville natale, dont il est désormais l'emblème autant que le saucisson brioché, Lyon. Benzema fait ses premiers pas sur le terrain dans un club de Bron. Vous connaissez Bron, Stéphane, vraiment, pas loin de Lyon. Le SC Bron Terraillon. À 9 ans, lors d'un match contre les Poussins de l'Olympique Lyonnais, il marque 2 buts. Les dirigeants de l'OL lui proposent de venir terminer sa formation chez eux. À la question « Benzema était-il un petit con ?», la réponse est « oui ». Un peu, disons en tout cas un anticonformiste. En 98, lors de la Coupe du Monde, il est le seul de ses copains à ne pas porter le maillot des Bleus, mais celui du Brésil. Quand je jouais avec mes potes à Bron, j'étais toujours Ronaldo, jusqu'à la finale. Je me souviens très bien de cette journée, le 12 juillet. J'étais en colonie de vacances avec ma sœur. Dans l'après-midi, il y avait eu un tournoi de foot. Tout le monde était forcément à bloc derrière la France. Tout le monde voulait jouer avec le maillot des Bleus, sauf moi. À ce moment-là, j'étais encore pour le Brésil. J'ai simplement retourné ma veste lorsque Zizou a marqué son second but. En 2005, alors qu'il rejoint à 17 ans seulement l'équipe première de l'OL, il marque les esprits d'entrée. Rémi Vercourtre, ancien gardien de but de l'équipe, se souvient. Quand un jeune montait en pro, il faisait toujours un discours pour se présenter. Lui, Karim, il est monté sur une chaise et il a dit à tous les internationaux présents « Merci de m'accueillir, mais je suis là pour piquer votre place et ça va être fait très rapidement ». Le pire, c'est que c'était pas du bluff, Stéphane. En 2008, il finit meilleur buteur de Ligue 1 à 19 ans, 66 buts en 148 rencontres, direction alors l'Espagne et le Real Madrid, avec qui il remportera moult championnats, moult Ligue des champions. Hélas, celui que les madrilènes surnomment Karimucho connaît une histoire plus compliquée avec l'équipe de France. Il joue bien sûr avec les Bleus dès 2008, mais en 2010, patatras, c'est l'affaire Zaya, où l'on découvre que le pied n'est pas la seule partie de son corps avec laquelle Karim sait faire preuve d'audace. Avec son copain, Franck Ribéry, ils sont accusés d'avoir eu des relations avec une prostituée mineure, Zaya donc. Non, que j'ai pas allé chez la pute, dira Franck. Les deux joueurs seront relaxés en 2014, mais le mal semble être fait, en tout cas dans l'esprit du sélectionneur de l'époque, l'inoubliable Raymond Domenech, qui décide de se passer des services de Benzema pour le Mondial 2010. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on croit souvent par association d'idées, Benzema n'était pas dans le fameux bus. Et non, le bus magique de Tainsna, quand les joueurs se sont mis en grève, c'était sans Karim qui lui se dorait la nouille à Formentera sur un yacht. Il faudra attendre l'ère Laurent Blanc pour assister au retour de Benzema en équipe de France. Lors de l'Euro 2012, il brille, mais voilà qu'une autre affaire surgit, l'affaire dite de la sextape. Voilà cette fois le malheureux Karim accusé de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Un procès doit d'ailleurs se tenir le 20 octobre prochain, annonce à laquelle il réagit sur Twitter. La mascarade continue, alors rendez-vous au tribunal si tribunal il y a. Là aussi, entre coéquipiers, franchement, un chantage à la sextape, c'est courant. Moi, par exemple, chaque mois, Pouls et Castello me versent 500 euros. Sinon, je balance leur petit film de vacances.
Mais c'est dans le bon sens?
Non, voilà, c'est dans le mauvais sens.
Il y a deux...
Oh,
500 balles, les gars, c'est de bonne guerre. C'est pas méchant, sauf que l'affaire prend des proportions dingues et cette fois, Benzema n'est pas rappelé en bleu. Puis en 2016, alors là, c'est le coup de grâce. Dans une interview, il explique que si Deschamps ne le sélectionne pas, c'est, je cite, qu'il a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Là, franchement, tout le monde se dit qu'on reverra jamais Benzema en bleu, d'autant que d'autres petites affaires s'ajoutent à la grosse. Son nom est cité dans une affaire de blanchiment d'argent. On commence à l'accuser d'antipatriotisme sous prétexte qu'il ne chante jamais la Marseillaise en sélection. En gros, il devient la tête de turc préférée des Français. On le taxe de tous les maux, Karim, ne pas être assez patriote, d'être trop matu vu, de pas fréquenter les bonnes personnes. On lui reproche ses grosses voitures, ses déclarations sur d'autres joueurs.
Et ses liens décidément un peu trop sulfureux avec les nazis.
Oui, on lui reproche tout, Stéphane. Dès qu'il y a un problème, c'est Karim Benzema. En 2012, VSD titre « Karim Benzema, millionnaire du foot et petit-fils ingrat ». En cause, un sombre contentieux avec sa grand-mère concernant le paiement de sa pension élevée à 1500 euros par mois. Karim ne voudrait pas aider mamie. Méchant Karimou veut laisser crever mémé. Bon, pas tout à fait quand on creuse un peu. Ce sera en réalité l'une des tantes de Karim Benzema qui aurait mis la pression sur le joueur pour qu'il verse mensuellement de l'argent à mamie. Mais s'occupant déjà de son loyer depuis 2007 et d'un versement d'argent de poche de 1800 euros par mois, il trouvait la requête de Tata un peu forte de café. 1800 euros, c'est beaucoup d'argent. Bon, ok, quand c'est pour lui, Karim peut mettre un peu plus. Comme vous, Stéphane, il aime hein, les grosses cylindrées. Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes, Bugatti. Mais il a un argument de poids, je cite, « Quand tu sors avec Rihanna, tu peux pas la trimballer en Kangoo. » Au terme donc d'une saison fantastique, cette fois Didier Deschamps n'a pas eu d'autre choix que de rappeler Karimoucho. Espérons que cette fois, plus aucune polémique ne vienne gâcher la fête entre Karim Benzema et l'équipe de France. Vous êtes prêts pour ce soir, Stéphane ?
Yeah.
Avec des fans comme ça, on va aller loin.
En pilonnant les lignes allemandes.
Oui, c'est pas le terme technique, Stéphane, mais c'est bien d'essayer de vous joindre à la ferveur populaire. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir écouté ce portrait en entier. Je sais qu'il y a deux choses avec lesquelles vous avez vraiment du mal. La prononciation des noms de groupes de rock australiens et le foot. Même si dernièrement, je me suis laissé dire que vous aviez quand même encore plus de mal avec les noms de groupes de rock australiens.
C'était INXS. 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 INXS, oui, INXS.
INXS, c'est votre génération, Stéphane, en plus.
Oui, j'ai jamais su, je sais pas pourquoi c'est le X qui me... Je l'ai jamais réussi
avec
à le dire.
X, c'est difficile, vous avez découvert INXS et vous avez découvert tout à l'heure qu'en foot, il y avait une stratégie, hein, Stéphane. Vous nous rappelez le 4-4-2, 4-5-1.
4-5-1.
Qu'est-ce que vous retenez
et le faux 9, le vrai 9, le faux 9.
Vrai 9.
Si on le met un peu en retrait.
Vous avez appris pas mal de trucs.
J'ai appris
vous
êtes énormément, prêt pour ce soir. Oui, je suis prêt pour ce soir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces as de la passe qui nous font rêver et qui nous ont fait rêver pour retrouver les as de la chronique. Et on va revenir dans l'actualité grâce à l'histoire.
Olivier Pauls nous racontait l'origine du maroilles.
Bah oui, bien
d'où
sûr.
D'où vient le maroilles du Nord ? C'est bon, j'ai répondu à la question. Ça, c'est fait. Stéphane Bern, le mot de la fin, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, ça tombe à l'eau.
Oui, quand ça ne se fait pas, on dit ça tombe à l'eau. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Et en bonus, je vous prends une petite info qui n'a aucun intérêt. Et que vous oublierez quelques secondes après l'avoir apprise.
Ça, c'est du teaser. Et tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines d'un réseau social fort utile au moment de trouver un job, LinkedIn.
Oui. C'est considéré un peu comme un réseau social un peu chiant, ce LinkedIn,
oui,
quand même.
Peu froid.
Parce que, ouais, c'est le réseau social du travail. C'est pas le réseau social de n'importe quel travail, en fait. Parce que, de tous les gens qui sont à l'antenne dans Historiquement Vôtre, par exemple, je pense que je suis le seul à avoir un profil LinkedIn
mais moi, j'ai
à
un
jour.
Profil.
À jour.
Ah, à jour.
Vous,
voyez
vous, Mathieu, apparemment, vous en avez un, mais je le trouve même
oui,
pas.
Non,
Olivier Pouls, il a un profil avec une photo de lui qui doit dater de 2004. Hein.
Et
Stéphane,
sexy, hein.
Et Stéphane, vous avez pas de profil
non.
LinkedIn. Mais c'est un peu normal, en fait, pour vous, Stéphane, en tout cas, parce que en dehors des hommes politique, les célébrités ont rarement de profil LinkedIn. Christine and the Queens, par exemple, elle n'est pas sur LinkedIn. Hein. Nick Jewell, par exemple.
Non, non plus.
Les gens qui sont vraiment à fond sur LinkedIn sont plutôt des cadres dans le BTP, des communicants de start-up, des patrons de PME. Et ces gens-là, généralement, ils postent quand même des trucs un peu chiants, genre des invitations pour des événements, des trucs du genre rendez-vous le mardi 8 à l'espace coworking Digital World pour un workshop sur le télétravail en présence de Mathieu Delfond, Chief Technical Officer de Zione, la nouvelle start-up de Corrida éco-responsable. Venez nombreux.
De, oui, pardon, vous avez dit de Corrida
éco-responsable.
Vous l'avez inventé ou vous avez vraiment cité un truc?
J'ai tout inventé, là, bien sûr. Il y a rien de vrai. Mais voyez à quel point ça sonne vrai.
Ouais. Ouais.
Et on n'a pas envie d'aller hein, à cet événement. Hein. C'est ça LinkedIn un peu aussi. Mais LinkedIn, c'est aussi le réseau que beaucoup de gens utilisent pour trouver du travail, même si malheureusement les postes proposés souvent ça tombe complètement à côté de la plaque. J'ai regardé ce qu'on me proposait à moi pour les besoins de cette chronique. Bon, il y a des trucs qui sont vaguement dans les clous. Genre là, on m'a proposé une annonce pour être rédacteur en chef d'Euronews en Bulgarie. C'est tentant. Oui, c'est un petit peu tentant.
Il faut parler bulgare?
Non, je pense pas. C'est juste qu'il faut se déplacer en Bulgarie, voilà.
Mais c'est très joli, la Bulgarie,
oui,
savez-vous.
Oui, peut-être, c'est en permanence, peut-être.
Ah, allez-y, vous, Stéphane.
Mais oui, allez-y. Rédacteur en chef de Euronews en Bulgarie.
On va vous faire suivre l'annonce.
Il y a quand même surtout des annonces complètement n'importe quoi. On me propose, par exemple, d'être prof d'éducation physique bénévole en Grande Couronne. Mais professeur d'harmonica à Levallois-Perret. Je sais même pas jouer de l'harmonica. Directeur de crèche à Boulogne. Une annonce quand même, celle de la crèche, qui essaye de me teaser en me disant « Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une société en pleine évolution ?»
Ah ?
Non, ça va
non,
en
non,
fait.
Non, ça va, je vais t'arrêter là.
Voilà. Enfin, quand même, vraiment complètement n'importe quoi. Mais alors, de quand ça date ce réseau social, utile pour certains, ennuyeux pour d'autres ? Eh bien, figurez-vous que LinkedIn, c'est le plus ancien des gros réseaux sociaux encore en vie. Ça a été lancé le 5 mai 2003, presque Oula. Un an avant Facebook.
C'est dingue.
Avant même MySpace, qui a été créé au mois d'août de la même année. Et ça a été créé par plusieurs messieurs, dont un Français. un breton qui s'appelle Jean-Luc Vaillant, qui est toujours aujourd'hui un des chefs de LinkedIn, et aussi un autre monsieur qui s'appelle Reid Hoffman, qui était déjà super riche parce que c'était un des fondateurs de PayPal. Vous voyez, en fait, souvent, vous voyez dans les trucs de la Silicon Valley, en fait, c'est un peu les mêmes personnes. LinkedIn, ça a commencé comme super doucement. Au début, d'après ce qu'il raconte, il y avait des journées où il y avait qu'une vingtaine de nouvelles inscriptions par jour, ce qui est quand même peu pour un réseau social.
À l'échelle mondiale, surtout.
Voilà. Mais ça a eu un succès progressif d'abord, un peu un succès d'estime, et puis un succès massif ensuite. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a 750 millions de membres quand même sur LinkedIn. Et puis, c'est devenu légèrement plus fun que ça l'était. Aujourd'hui, il y a de la vidéo sur LinkedIn. Il y a même des stories. Même si personnellement, je connais personne qui poste des stories sur LinkedIn. Il y a des stories, vous voyez, sur le workshop dont je parlais tout à l'heure de Corrida éco-responsable. Il y a des gens qui font des stories dessus. Et c'est devenu quand même, pour des millions de personnes, une des meilleures façons de faire avancer leur carrière. Reid Hoffman, aujourd'hui, il est milliardaire. Pas seulement parce qu'il a créé LinkedIn, mais aussi parce qu'il a investi 35 000 dollars dans Facebook au tout début de Facebook. Et ces 35 000 dollars se sont transformés en 400 millions de dollars.
Ça, c'est un bon investissement.
Dernière chose, je pense qu'il faut quand même remercier LinkedIn parce que LinkedIn, c'est le principal réseau qui permet de stalker les gens. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Parce qu'on peut voir à peu près.
Ce que veut dire stalker.
Oui. Stalker, c'est surveiller les gens à distance pour avoir des informations sur eux sans qu'ils soient forcément au courant que vous les avez. Vous pouvez en tout cas y avoir accès sur LinkedIn. Il y a généralement une photo qui n'est pas trop mensongère parce que c'est quand même un réseau professionnel, hein. Seul petit inconvénient quand même un petit assez connu des stalkers, c'est que les gens dont vous consultez le profil peuvent savoir que vous l'avez consulté, donc vous n'êtes pas tout à fait incognito, et ça peut craindre un petit peu quand on est un stalker professionnel.
Et que vous êtes, visiblement.
Non, ça a pu m'arriver quelquefois dans mon existence.
Et bien, vous surveillez qui?
Non, des gens que je croise et qui ont l'air louches.
Voilà. Il y en a tellement. Stéphane, vous ne stockez jamais les gens sur Internet?
Je ne saurais pas faire, dites. Merci David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Sentez-vous cette odeur qui inonde le studio, Stéphane?
Le maroilles.
La bonne odeur du maroilles. Olivier Pouls est avec nous pour nous entraîner dans le Nord aujourd'hui.
Ouais, je vais vous parler du maroilles dans un instant, mais je vais commencer ma chronique un peu à la façon de David Castelhoff. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle tout à fait véridique. Il y a quelques années, j'avais 23-24 ans, j'avais un copain qui habitait un studio à qui je devais rendre une petite blagounette. Et je ne savais pas très bien quoi faire. Puis une idée m'est venue, je suis allé acheter un maroilles. Je l'ai déballé, je l'ai mis derrière son radiateur.
Oh, le radiateur.
Et je suis reparti. Et autant vous dire qu'il a vécu l'enfer pendant au moins 15 jours avant de trouver évidemment ce maroilles planqué derrière le radiateur. Donc c'est vrai que le maroilles, haute parade des fromages qui sentent fort.
Surtout derrière le radiateur.
Il est vraiment en tête. Et je vais vous dire dans un instant pourquoi il pue autant que ça. Alors, c'est un fromage du Nord, bien sûr, qui naît au 7e siècle dans le village de Maroilles, qui, jadis, abritait une très importante abbaye. Et il y avait une ordonnance qui semait les paysans de la région, le jour de la Saint-Baptiste, c'est-à-dire le 24 juin, de transformer le lait de leur troupeau en fromage et d'apporter ces fromages aux moines 100 jours plus tard, le jour de la Saint-Rémy. Donc il y avait quand même déjà une certaine maturation du clacos. On ne raconte pas quand ils arrivaient en présentant leur fromage aux moines, ça devait sentir bon dans l'abbaye. Mais voilà, c'était une tradition. Et c'est un fromage donc dont l'affinage évidemment est long, il l'est toujours aujourd'hui, et qui s'imposait assez vite d'ailleurs comme un fromage de très grande qualité. Ça devient un mets royal d'ailleurs, il est servi à la cour. Bon, malheureusement, la Révolution a été fatale à l'abbaye, comme beaucoup, qui a été pillée, détruite en grande partie, etc. Le maroilles a été un tout petit peu oublié, mais le savoir-faire et la tradition dans les fermes a persisté, et le maroilles, depuis 1986, est un fromage d'appellation d'origine protégé. Alors, on le mange tout autant seul sur le plateau que dans de nombreuses petites préparations. Mais le maroilles, pour moi, c'est aussi ça.
Du maroilles, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un fromage que je fais un petit peu fort.
Comme le vieux Lille.
Vous voulez goûter?
Non.
Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc qu'à l'odeur.
Eh ben oui, c'est moins fort dans le bouc qu'à l'odeur. Alors pourquoi le maroilles sent-il si fort et sent-il si mauvais? Eh bien parce que sa croûte est constituée de matière lactique, de bactéries et de champignons. Et au fil du temps, les bactéries et les champignons vont se développer. Et ce sont ces bactéries et ces champignons qui sont très typiques de l'appellation marolles, parce que ce sont des bactéries locales, en quelque sorte, eh bien, qui vont développer
cette odeur.
Ça tient juste
au lieu, c'est ça, j'ai du mal à comprendre les croûtes des fromages.
Non, mais vous prenez le Munster, par exemple, qui sent lui aussi très mauvais, il sent pas la même chose. Il sent très fort aussi, mais il sent pas la même chose. Pourquoi? Ben, parce que la bactérie et le champignon, eh bien, ils ont des souches locales et donc ils signent olfactivement un fromage. C'est ce qu'on appelle la notion de terroir. Et donc, le terroir du maroilles fait se développer à cet endroit-là, dans ces caves-là, avec ces laits-là issus de ces vaches-là, des odeurs très caractéristiques.
Dans les Ardennes, Rocroix, c'est pas mal aussi.
C'est aussi un fromage qui a du caractère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on enlève la croûte de ces fromages, parce que franchement, on n'est pas obligé de la manger entièrement.
Ah, moi, je la mange, moi.
Ben vous avez raison, vous êtes un puriste. Bon. Mais si vous enlevez, moi j'en enlève une partie, j'enlève le dessus, je garde le dessous, c'est un peu fort. En fait, l'intérieur du fromage n'est pas très puissant en goût, c'est plutôt doux, c'est plutôt délicat. C'est très bon le maroilles, il faut dépasser le stade de la petite
appréhension. Et surtout ce qui est très bon, Olivier, c'est la tarte au maroilles.
Ah oui, la tarte au maroilles.
C'est très bon.
La recette.
Recette rapide d'une tarte au maroilles, une pâte feuilletée, deux œufs, un demi-maroilles, 20 centilitres de crème liquide. Je rajoute un petit peu de bière, du Nord, non mais de 10 centilitres, sel, poivre. Alors, vous grattez la croûte du maroilles avant de vous en servir, justement pour le débarrasser de ses bactéries, parce que quand il est vraiment bien affiné, ça peut être un peu fort. Donc, vous grattez bien la croûte, vous coupez le maroilles en petits morceaux, vous mélangez tout ça donc avec les œufs, avec la crème liquide, avec le petit trait de bière. Vous garnissez votre pâte feuilletée que vous avez préalablement picotée de manière à ce qu'elle ne gonfle pas trop. Vous mettez ça dans un four à 180 degrés pendant 40 minutes, et là, vous avez une tarte au maroilles qui, une fois encore, en termes de goût, n'est pas si puissante que ça.
Oui. Mais vous dites quand même adieu à votre summer body, quoi. C'est peut-être pas la saison de manger des tartes au maroilles, mais ça fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir, vous savez.
Merci beaucoup.
Exactement.
Olivier. Vous êtes toujours ami avec avec la personne que vous avez souillé.
Comment s'est fini l'anecdote du radiateur?
Ben, il a fini par le découvrir, et je vous avoue qu'il n'était pas très content.
Il a pas trouvé ça.
Mais il savait que c'était vous.
Ben, il a fini par le savoir.
Ça pouvait être que lui. On retrouve toutes vos recettes, Olivier, sur le site europe1.fr. Stéphane, vous avez le dernier mot. Oui. C'est pour vous. C'est l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, ça tombe à l'eau.
Oui, et ça tombe à l'eau. Quand ça doit se faire, que ça se fait pas, que ce soit en matière amoureuse ou dans le business ou dans n'importe quel autre domaine, on dit, c'est tombé à l'eau.
Ça tombe à l'eau. J'imagine que si ça tombe à l'eau, ben, c'est parce que c'est perdu. En effet, difficile de rattraper ce qui est littéralement tombé dans l'eau. Mais j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça, Stéphane. En tout cas, j'espère. Sinon, on va s'ennuyer.
Oui, Mathieu, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et au pire, j'ai dans ma sacoche des coloriages, si vraiment vous vous ennuyez. Voilà. Mais partons plutôt pour le 12e siècle, oui, c'est très loin. À cette époque, on dit tomber dans le lac. On comprend facilement comment la formule s'est rapidement transformée en tomber à l'eau. Mais là où il y a une petite astuce, c'est que le lac n'a rien à voir avec la grande étendue d'eau près duquel vous êtes né. Ce lac vient du latin laceus, qui évoque le lacet, bref, le nœud coulant. Comprenez le piège. Tomber dans le lac, c'était donc tomber dans le piège. D'ailleurs, petite info, totalement inutile et sans intérêt, mais que je vous avais promise, on ne prononçait pas lac à l'époque, mais la. Bon, je vous avais prévenu, c'est sans intérêt. Quoi qu'il en soit, que ça tombe à l'eau ou que ça tombe dans un piège, dans tous les cas, c'est l'embarras et la misère. C'est la situation dans laquelle on se retrouve quand tout périclite. En anglais, aujourd'hui, on dit toujours « fall in the water ». Je ne traduirai pas, c'est inutile. En espagnol, « caer en saco roto ». Comprenez, ça tombe dans un sac troué. Mmh. Effectivement, c'est ballot. On dit aussi « todo mi gozo en un pozo ». Je mets toute ma joie dans un puits. C'est pas malin non plus, parce qu'on ne pourra jamais la récupérer. Chez nos amis néerlandais, on dit qu'une affaire tombe dans les douves. Et au Portugal, c'est « dar im agua de barrel », ça tombe dans l'eau de la cuvette. Voilà qui est également bien dommage. En tout cas, quand ça tombe à l'eau, souvenez-vous de ce que disait Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
Était-ce vraiment la bonne citation avant le match de ce soir, Stéphane, pour conclure cette émission? Je ne sais pas. Historiquement, votre spécial Euro s'achève et vous n'y couperez pas, comme j'ai la chance de tenir de grands spécialistes du ballon rond. Pronostic pour ce soir, France-Allemagne, Olivier. Allemagne-France plutôt.
De partout.
David?
2-1.
Pour qui?
Je ne sais rien.
Il n'en sait rien.
Pour la France.
2-1 pour la France. Stéphane.
Oui, je dirais pareil. 2-1 pour la France.
Stéphane, je vous sens un peu épuisé par tout ce sport. Aujourd'hui,
sur les jambes.
Demain, on repose nos fessiers.
Ah oui, Mathieu. Demain, fini les jambes. on revient à la tête, ou plutôt la gamelle à phosphore, comme dirait San Antonio. Puisqu'on réunit trois personnages qui ont tout simplement inventé des mots. Le gargantuesque François Rabelais, la star Frédéric Dard et son personnage de San Antonio, à qui l'on doit 15 000 mots, expressions et néologismes.
Et la chanteuse Aya Nakamura, qui, à en croire un député, aurait toute sa place à l'Académie française. Oh, Dja Dja, Pookie aussi, bref, le temps de me plonger dans le dictionnaire illustré d'Aya Nakamura, et demain, je vous raconte tout ça.
Un programme tout sauf embistrouillant, Mathieu.
Si vous le dites, je veux bien vous croire. À demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.